c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus. Oh, non, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Le papier n'est pas imprimé, là. Ah,
les
jours. Purée, ce casque qui marche pas. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous. On y va. Allez, c'est parti. Bonne année. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à... Bonne année, Elsa.
Bonne année, Audrey. Ouais. Bonne année, Chloé. Bonne année, Philippe.
Bonne année,
Stéphane.
Qui est là toute la semaine. Bonjour à tous. Et puis bonjour aussi à Gilles qui nous écoute, on le sait. Marron glacé, chocolat et foie gras presque digérés. Nous voilà de retour en 2012. Gloops. L'année qui défrait déjà la chronique grâce à nos tontons Maya qui, je vous le rappelle, ont prédit le pire pour le mois de décembre. D'autres oiseaux de mauvais augure optent plutôt pour un cataclysme aux alentours du 6 mai. Alors moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais j'avoue que derrière les vitres de ma cabane au fond des bois, je remarque que l'année commence de manière tout à fait étrange. Les arbres bourgeonnent, les moineaux copulent, le printemps est déjà là. Et à ce sujet, je vous conseille d'ailleurs de podcaster l'émission 3D sur France Inter qui a été diffusée hier, 3D de Stéphane Paoli. Une des rares émissions intelligentes avec un vrai journaliste qui pose des vraies questions. Bref, il paraît qu'on peut d'ores et déjà commencer à planter des oliviers chez nous. Le climat véronais sera parfait d'ici quelques années pour ces arbres méditerranéens. Ça rassure, hein ?
Ouais. Et oui.
Mais bon, nous on continue à faire comme si tout était normal avec une émission encore bien remplie aujourd'hui. Une chemise à rayures culturelle émiliavoise, une tripounale azimutée qui vous rassurera tous en cette année présidentielle et plein de choux et de fadaises dans la haute d'Elsa Gourmand. Et comme j'ai besoin de neige et de froid et que la neige et le froid ne viennent toujours pas, eh ben c'est Björk.
So much on me. Born stubborn, me will always be. Before you count 1, 2, 3, I will have grown my own private branch of this tree. You gardener, you discipliner, domestically I can obey all of your rules and still be. I'm Elsa, I would compromise. I'm Elsa, I would compromise. I'm Elsa,
y est, il neige. Les paysages scintillent de givre. J'ai sorti mon écharpe et mes petits gants en peau de renne retournés. Et Chloé fait des muffins au coin du feu et on va boire un chocolat chaud. Mais non, il faut remettre les pieds dans la réalité avec Chou et Fadaise, des histoires de toilettes, de sondages et la mort de Pablo Neruda, revue et corrigée par de nouveaux témoignages.
Chou.
Fadaise.
Bah pourquoi Chou?
Bah parce que feuille.
Ah! Audrey, 2012. Une année qui commence sur les chapeaux de roue, une année qui nous en promet des vertes et des pas mûres, avec des scandales sanitaires, des élections présidentielles, mais n'est-ce pas la même chose? Une crise financière et économique et concomitamment peut-être des révoltes populaires, des bouleversements géopolitiques et climatiques, j'en passe et des meilleurs. Voilà. En quelque sorte, c'est la merde.
Rien de nouveau quoi, ça change pas. 2012, tu changes pas de ton, non? Tu trouves toujours que des infos...
Ouais, une année pénible. de chiottes. Les chiottes alias les water closets. À nos acronymes WC, auquel le magazine Cosette consacre sa rubrique Corps et âme. Un dossier de fond avec une petite sociologie des toilettes. Qui y va le plus? Qui y demeure le plus longtemps? Pour y faire quoi, hein? Lire, pleurer, téléphoner, penser? On peut faire plein de choses dans les toilettes.
Allô? Attends, deux secondes.
Oui, téléphoner, c'est le... C'est la couverture de Cosette où on voit une dame avec le papier toilette dans une main, le téléphone portable dans l'autre et elle hurle.
Hystérique,
avec son sac à main sur ses genoux et les bas sur les chaussures, sur les talons. Oui, au site, qu'est-ce qu'on y fait, hein? Quelle sorte de déjection on produit, voilà. Et on y apprend aussi que là encore, hommes et femmes se distinguent sur tous les plans. On ne fait pas les mêmes crottes. Et ouais. Et les hommes, ils passent beaucoup plus de temps que les femmes.
Tiens donc.
Ouais. Contrairement aux idées reçues. Hein.
Ah bon? Les idées reçues, c'est que les femmes, elles y passent plus de temps?
Oui, souvent c'est comme ça.
Ah ouais, parce qu'on a des problèmes de digestion, tout ça,
voilà,
parce qu'on est fragile et tout.
Les organes, prout.
Ah oui.
Eh ben non, les hommes, ils passeraient plus de temps que les femmes. L'aspect psychanalytique n'est pas en reste. Le stade caca-boudin survient chez les enfants de 2 à 5 ans environ. Un stade dont l'explication se trouve dans le plaisir de transgresser, mais pas seulement. Quand l'enfant devient propre, c'est le moment aussi où il se débrouille de mieux en mieux avec la parole. Que du bonheur, il a tout bon, il est content, le gamin, et donc il s'en donne à cœur joie. Il s'amuse avec ses mots, se délecte de l'humour scato. De l'importance donc du caca et du boudin dans la capacité à communiquer. Mais oui. Et ça n'est pas tout! Selon Freud, le stade caca a partie liée avec le sexe, se situant entre le stade anal, 2 à 3 ans, et le stade phallique, 3 à 5 ans en gros, sans oublier le fait que le caca n'est pas très loin du zizi.
Elle s'est éclatée. Ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas fait d'émission.
Ouais, là, je me rattrape. Mais si pour certains ou certaines, les toilettes peuvent s'avérer être un havre de paix, pour d'autres, ça n'est pas vraiment une sinécure. On les appelle dames pipi, même si des hommes peuvent être chargés de l'entretien des toilettes. Cosette a interrogé un monsieur, un responsable de la propreté dans une station totale d'une aire d'autoroute, et il ne mâche pas ses mots, le monsieur. Porcherie, dégueulasse, malpropre. Mais le pire, nous dit-il, c'est quand des quarts de pèlerins pour Lourdes arrivent. À croire, dit-il, que la visite des grottes leur dégage les intestins. Eh ouais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Pour terminer cette petite rubrique que je souhaitais légère, sans façon, histoire de vous divertir en ces temps difficiles, Cosette nous explique qu'à Pompéi, les archéologues ont constaté qu'on écrivait déjà sur les murs des latrines en faisant ses besoins. Les Romains nous ont laissé quelques traces comme « aux chiottes Tibère », je trouve ça pas mal, ou « ici, j'ai bien chié », on est content pour lui, ou encore « nous sommes venus à Pompéi les 6 des calendes de septembre », et voir plus folichon, une bite pour 5 sesterces.
C'est pas cher.
Allez, on passe à autre chose.
Pas des chiottes écolo, ça. Hein.
Non.
Elles se remplissent beaucoup trop.
Ouais,
il faut les changer.
Alors, les unes de quotidien. On y va. Pour le Figaro, plus que 200 jours avant les Jeux Olympiques de Londres. Il paraît que ça va être un bordel monstre, surtout au niveau de la circulation. Ils en parlaient ce matin sur France Inter. Et puis, la course à l'élection présidentielle avec un sondage indiquant une remontée de Sarkozy. L'écart se réduit, jubile le canard de Dassault.
Eh ouais.
François nous tient en haleine avec ce titre sur fond rouge, présidentielle, l'année des surprises. Jamais l'issue d'une telle élection n'aura été aussi incertaine. Avec en dessous des photos de Mélenchon, qui se présente, hein, de Borloo, qui ne se présente plus, de Hulot, qui a été mis hors jeu, de Chevènement, qui est toujours là, de DSK, qui a autre chose à faire et à penser, de Villepin, qui s'accroche, de Montebourg, le recalé flamboyant de la primaire du PS, et de Besancenot, qui n'est pas non plus candidat.
Non.
Moi, je ne comprends pas trop cette une, mais je suis peut-être pas bien lunée, je n'ai pas bien compris. Ils mettent des photos de gens qui se présentent pas. Enfin bon, il y a quelque chose qui m'échappe, mais bon. J'ai pas les neurones en ordre, ça doit être ça.
Ils se sont trompés de fichier pour...
Ouais, je... Bon. Toujours les élections avec Le Monde qui met le doigt là où ça fait mal. Une campagne marquée par le flou des programmes. Heureusement, Le Quotidien nous propose une rencontre avec Clint Eastwood pour son prochain film consacré à Edgar Hoover. C'est ça.
J'en sais rien, c'est toi qui as lu l'article. C'est pas moi.
Oui, mais pour Clint Eastwood, j'ai pas été dans le détail.
Oh, Clint.
Alors, l'UMA revient sur les affaires de Cifrance et des Scop. Les salariés peuvent prendre le pouvoir, point d'exclamation. À l'image de Cifrance, l'intérêt pour les coopératives illustre la volonté des citoyens à se mêler des affaires de leurs entreprises. Et les citoyens feraient bien aussi de se mêler des grands travaux engagés par l'État. Le Parisien nous alerte. Grands travaux, un piège à 60 milliards. Pour financer les hôpitaux, des stades, des prisons ou même le Pentagone, le futur ministère de la Défense, l'État a de plus en plus souvent recours à un partenariat avec des entreprises privées. Mais il y a des contreparties qui peuvent être redoutables. Des coûts ou des loyers qui s'envolent et dont la facture devrait s'élever à 60 milliards d'euros d'ici à 2020. Enfin, Libé nous gratifie d'une photo des Le Pen père et fille. 30% des sondés n'excluraient pas de voter Le Pen.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Ceci, on va arrêter, j'ai laissé les applaudissements, ça va pas hein, dans le montage. Ceci étant dit, si on ouvre Libé, le sondage dit exactement ceci. À la question si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen ? 12% répondent non, probablement pas. 10% oui, probablement. Et 8% oui, certainement. 2% ne se prononcent pas. Enfin, 68% répondent non, certainement pas. Alors la une de Libé ne serait-elle pas quelque peu fallacieuse ?
Oui, parce que finalement, finalement... les certainement c'est 8%.
Il y a 8 et allez...
10, peut-être 10, ouais.
Voilà, ouais. Mais si. Pas 30.
Pas 30, ah oui, non, pas 30.
Pas 30, hein. Enfin, il n'empêche que tout de même...
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
Heureusement, il y a la poésie pour nous réconcilier avec le monde.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants.
Qu'on plainte de Pablo Neruda chantée par Jean Ferrat. Pablo Neruda, donc poète chilien, qui fut aussi diplomate et sénateur. Il avait été choisi par le Parti communiste chilien pour être candidat à l'élection présidentielle de 1969. Et Neruda a renoncé pour laisser la place à son ami Salvador Allende. Il avait obtenu le prix Nobel en 1971. Pablo Neruda est mort le 23 septembre 1973, 12 jours après le coup d'État militaire qui a renversé Allende. Et il serait mort d'un cancer de la prostate, selon la version officielle. Mais l'ancien chauffeur du prix Nobel de littérature, Manuel Araya, affirme que le poète a été tué sur ordre de Pinochet. Courrier International nous dévoile à travers un article de El País de Madrid cette hypothèse que la justice ne prend pas à la légère, puisqu'une enquête a été ouverte et pourrait bientôt faire exhumer la dépouille du poète. Alors dans cet article, Manuel Araya, le chauffeur, secrétaire et homme de confiance de Pablo Neruda, raconte son histoire. En novembre 72, le Parti communiste chilien dont il est membre le charge de veiller sur Neruda qui vient de revenir au Chili après avoir démissionné de son poste d'ambassadeur en France pour raison de santé. Une relation de confiance s'instaure entre les deux hommes et la maladie n'empêche pas Neruda de voir ses amis intellectuels et politiques, de lire et d'écrire, bref, de mener une vie tout à fait normale. Il termine d'ailleurs ses mémoires « J'avoue que j'ai vécu » le 14 septembre 73, 9 jours avant sa mort. Les dernières pages concernent le coup d'État. Alors je cite « J'écris ces lignes hâtivement pour mes mémoires, 3 jours après les faits inqualifiables qui ont emporté mon grand compagnon, le président Allende. On a fait le silence autour de son assassinat, on l'a inhumé en cachette et seule sa veuve a été autorisée à accompagner son cadavre immortel. Une nouvelle fois, les soldats du Chili avaient trahi leur patrie. » Donc à ce moment-là, quand il écrit tout ça, à ce moment, les militaires avaient investi sa demeure, la demeure de Pablo Neruda à Isla Negra, une ville balnéaire des environs de Santiago. Alors Manuel Araya raconte les dernières heures du poète. Il doit quitter le Chili pour se réfugier au Mexique. Avant de partir, il est admis à la clinique Santa Maria dans la capitale pour attendre le jour du départ fixé au 22 septembre. Départ retardé à la demande même de Neruda. Le 23 septembre, Manuel Araya et la femme de Neruda, Mathilde, sont dans la maison de Isla Negra pour récupérer quelques affaires. Araya raconte, vers 16h, tandis que nous rangions les affaires, nous avons reçu un coup de téléphone. C'était Neruda. Il nous demandait de rentrer immédiatement à Santiago, car il se sentait très mal. Il nous a expliqué que pendant qu'il somnolait, un médecin était entré dans sa chambre et lui avait fait une piqûre. Nous sommes retournés aussitôt à la clinique. Nous l'avons trouvé fiévreux, rouge, enflé. Neruda est mort le 23 septembre à 22h30. Le juge Mario Carroza, donc qui est en charge de l'affaire, essaie de réunir le plus d'éléments possible pour que l'Institut médico-légal décide s'il y a lieu d'exhumer le corps. Il essaie de reconstituer le dossier médical du poète en enquêtant en France, où il a retrouvé le dossier médical de Neruda, et au Chili. Par contre, au Chili, on a perdu le dossier, bizarrement.
Ah, comme c'est bizarre.
Voilà. Donc, il est fort possible qu'on ne sache jamais comment Neruda est mort. Alors c'est vrai hein, que la culture et les dictatures en général, ça ne fait pas bon ménage. Ainsi, cette citation apocryphe attribuée tantôt à Goebbels, tantôt à Göring, « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Alors cette citation pourrait aussi être l'adage de Viktor Orban, le premier ministre de Hongrie. Courrier International toujours nous livre un article d'un journal de Budapest, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. C'est imprononçable. Son titre est « Culture, c'est la chute finale ». Donc depuis son arrivée au pouvoir en 2010, les budgets des établissements culturels ont été mis en coupe réglée. Résultat, musées, théâtres, cinéma, bibliothèques, où mettent la clé sous la porte, où sont au point mort, où tournent au ralenti. Le gouvernement d'Orban mise sur de grands projets de propagande en s'appuyant sur la nomination de nouveaux directeurs à poigne à la tête des grandes institutions. Alors un exemple, le 1er février, Georgi Dörner sera nommé directeur du nouveau théâtre de Budapest. Alors ce monsieur, il représente les positions du MIEP, un parti raciste et antisémite. C'est bon. Pour le cinéma, le Parlement a posé les bases nécessaires à la suppression totale des aides accordées au cinéma au profit de la politique de renouvellement de l'industrie cinématographique nationale.
C'est beau.
C'est beau, hein ? Et une commission a été mise en place qui s'est adjugée le droit de contrôle sur le montage définitif des œuvres. Ça, c'est formidable. Voilà, alors en France, on ne peut pas dire que la culture soit à la fête non plus. Hein. Sous le titre « Sinistre de la culture, les Inrecuptibles nous rend compte », le journal Les Inrecuptibles nous rend compte de 2 livres sur ce thème. « J'aime pas le sarkozysme culturel » de Frédéric Martel et « Culture, état d'urgence » d'Olivier Poivre d'Arvor. Pour Martel, la culture au sens large est l'une des dérives graves du quinquennat, qui n'en manque pourtant pas, et le péché originel du sarkozysme. Le bilan est triste et il ne reste rien du sarkozysme culturel de gouvernement. C'est vrai que c'est pas brillant. Pour Olivier Poivre d'Arvor, l'urgence est de replacer la culture au cœur d'un projet gouvernemental et de proposer un New Deal culturel bâti sur quelques principes forts. Garantir à tous, grâce à un investissement massif dans l'éducation aux arts, l'accès égal aux œuvres, encourager l'emploi culturel, réguler la concurrence, favoriser les jeunes talents, s'adresser à de nouveaux publics. Les propositions ne manquent pas et peut-être que les candidats à l'élection présidentielle pourraient s'en inspirer. Parce que pour le moment, c'est vrai que c'est pas brillant.
C'est pas brillant, mais Elsa, rassure-toi, Chloé
oui,
et moi, on a trouvé le sauveur. Et je crois qu'on peut le dire sans honte et sans l'ombre d'une hésitation, on votera pour Gérard.
La tribunal azimuté.
La tribunal attribué.
La tribunal azimuté.
La tribunal azimuté.
À l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président, s'appeler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerai public toutes les pâtisseries. Opposition néant, si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants, si j'étais président. Je recevrais la nuit le corps diplomatique, dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant, si j'étais président. Aux bornes des fontaines coulerait de l'orange à deux. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président.
Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la.
Et Gérard Lenormand. Ah, si j'étais président sur
c'est
la
fabuleux. C'est fabuleux.
En même temps, simple à la culture, Bécassine à l'économie, Tarzan à l'écologie, on n'est pas très
pas
éloigné
très loin,
de la réalité
ouais.
finalement. Mmh. Donc, il n'est pas tant dans la fiction que ça, Gérard. Donc voilà, votez Gérard Lenormand. Alors désolé Chloé, je ne crois pas que ton ami Gérard Lenormand fasse partie de la programmation culturelle Miavoise pour 2012. Enfin, c'est à vérifier grâce à la chemise à rayures d'Elsa Gourmand.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Nouvelle année, nouveau projet dans la chemise à rayures aujourd'hui. Tout. Vous saurez tout sur ce que vous concocte la fabrique Amillo pour l'année 2012. Mais pour commencer, un hommage à l'Espagne signé Albine Dahl, adjointe à la culture de la municipalité de Millau, au micro d'Alza Gourmand.
Albine Dahl, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe à la culture de la ville de Millau et vous proposez à partir de ce mardi et jusqu'au printemps une programmation autour de l'Espagne qui s'intitule Amigo Millau. Quelle est l'origine de cette programmation ?
Eh bien écoutez, moi je souhaitais un projet transversal, vaste, ambitieux, qui soit ouvert à tous les publics et qui soit ouvert à tous les âges. Donc, après concertation autour de moi, nous sommes tombés d'accord sur un thème autour de l'Espagne. Les services culturels ont été immédiatement enchantés, ils ont adhéré au projet tout de suite, et de nombreuses associations se sont mobilisées autour. Et nous avons pour arriver à ce vaste projet dont vous allez entendre parler, je pense, dans les mois qui viennent.
Il y a 23 spectacles qui sont prévus, hein, en tout
voilà.
genre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ces rendez-vous ?
Alors, nous allons effectivement avoir 23 rendez-vous, nous aurons 6 ou 7 rendez-vous de théâtre, nous aurons des concerts. Le point d'orgue, évidemment, de ce projet sera la venue de Paco Ibáñez le 11 mai, bien sûr. Nous aurons aussi des événements au cinéma, et puis nous aurons pas mal de conférences qui vont s'égrener tout au long des mois qui vont suivre. Nous aurons à peu près un événement par semaine de janvier à juin, voilà. Concernant l'Espagne.
Et donc, ces spectacles, ces conférences, ont lieu où dans la ville ?
Alors, vous avez bien sûr la Maison du Peuple, vous avez la salle René Rieu, vous aurez les cinémas, vous aurez le musée à la MJC, vous avez l'espace culture, la bibliothèque, la fabrique pour le théâtre. Voilà, ce sont à peu près les lieux qui vont recevoir ces événements.
Alors, ça débute mardi.
Oui, nous lançons mardi, 10 janvier à 18h30, dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple, avec des lectures d'extraits de l'anthologie de la poésie de Nicole Laurent-Catrice, par l'option théâtre du lycée Jean Vigo. Et nous avons ensuite une intervention de l'école de musique.
Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ?
Écoutez, je souhaite dire que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est un projet qui a emporté l'adhésion de beaucoup, beaucoup de monde. Tous les services culturels de la ville sont investis là-dedans, beaucoup d'associations. Il y a eu un maillage très important qui me ravit. Voilà. Alors je suis très contente et je pense que tout va bien se passer.
La soirée d'ouverture de la programmation municipale Amigo Millau, c'est demain soir à la Maison du Peuple. Au programme à partir de 18h30, lecture et musique pour entrer tout en douceur dans la chaleur de l'Espagne. Nouvelle année, nouveau projet à la fabrique Amillo, on ne va pas s'ennuyer avec la compagnie Création Éphémère.
Vincent Dubus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien et musicien à la compagnie Création Éphémère et vous allez nous parler de la nouvelle programmation qui se déroule à la fabrique. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a une ligne directrice à cette programmation ?
Alors, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, si ce n'est que le lieu, c'est le théâtre de la fabrique. C'est un petit théâtre de poche qui se trouve à Millau. Et en fait, qui est notre lieu de répétition et de création à la compagnie, propre à la compagnie Création Éphémère. Mais voilà, pour avoir une vie dans la cité, ben on programme et on propose en tout cas le théâtre à qui a envie de montrer son travail. Alors c'est vrai que bon, c'est la fabrique étant un lieu un petit peu alternatif, en tout cas qui défend des idées qu'on essaye toujours engagées, que ça soit social, politique, Donc on essaye que les artistes qui soient de passage aient un propos un petit peu comme ça, dans un engagement en tout cas dans leur travail. Voilà.
Alors cette programmation pour l'année 2012, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en tout cas pour le mois de janvier et puis un petit peu de février?
Donc ça va commencer avec le vendredi 13 janvier, on propose juste un petit vernissage à partir de 18h30 d'une exposition d'un artiste qui s'appelle André Aragon, qui est un artiste qui vit à Millau, qui est peintre, qui fait des écritures, qui fait des sculptures, voilà, qui va présenter quelques œuvres dans le hall de la fabrique. Ensuite, il y aura le dimanche 22 janvier à 16h. Là, c'est un spectacle pour enfants qui s'intitule Les mots dansent, par un artiste qui s'appelle Richard Abessera. C'est un conteur à la base, mais un conteur vocaliste, musicien, enfin, et qui aime beaucoup faire des performances. Et là, il a construit un spectacle qui est une performance à travers aussi l'informatique sur la poésie. C'est un spectacle interactif avec les enfants. Voilà, c'est vraiment, nous on l'avait reçu l'année passée, mais il y avait eu peu de monde et on avait vraiment envie que d'autres enfants le voient. Et c'est un spectacle qui donne envie de lire et d'écrire, enfin de manipuler les mots. Il se sert des mots de façon très très libre et c'est très joli comme spectacle. Ça c'est dimanche 22 janvier à 16h. Ensuite voilà, mardi 24 janvier, alors là à partir de 19h, c'est pas vraiment un spectacle, mais c'est entre le repas de quartier et une rencontre entre associations. On fait un partenariat avec l'association Myriade qui est à Millau et la compagnie Création Éphémère. Et on va proposer une soirée autour des soupes du monde entier. Donc chacun peut venir aussi même avec sa soupe, sa création de soupe. C'est bien si le public vient avec son bol et sa cuillère, c'est très bien. Et puis voilà, c'est partager un moment, se rencontrer, échanger. On a intitulé la soirée soupe populaire.
Ensuite, vous vous exportez au Théâtre de la Maison du Peuple.
Ouais, alors, je dirais que c'est un petit peu le point fort de la programmation. Bon, là, déjà, d'une part, parce que c'est le spectacle de la compagnie Création Éphémère, c'est une nouvelle création, et du Centre d'art dramatique pour comédiens handicapés, que nous appelons personnes différentes, comédiens différents. Donc on présentera le travail. En ce moment, l'équipe est à Guéret en création et ils feront la première dans un lieu qui s'appelle d'ailleurs la Fabrique aussi, c'est rigolo, de Guéret. Et ils viendront jouer donc au Théâtre de la Maison du Peuple le mardi 31 janvier à 20h45. C'est un spectacle qui s'appelle « Celui qui ?» Trois petits points, clin d'œil à Samuel Beckett, Samuel B. C'est une écriture d'un auteur contemporain qui s'appelle Philippe Forgeau. Et la mise en scène est signée Philippe Flao. Voilà, c'est un spectacle autour de l'univers de Samuel Beckett. Un auteur qui, c'est celui qui, voilà, qui s'abandonne à une écriture poétique et il fait vivre huit comédiens en quête de personnages. Donc le hasard de la vie, les faits se rencontrer, ils font pas grand-chose d'extraordinaire, juste simplement le fait d'exister. Enfin, c'est un petit peu les problématiques de Samuel Beckett, mais à travers l'écriture de Philippe Forgeau. Donc ça, c'est le spectacle sera lieu donc le 31, et il y aura aussi une représentation scolaire le lendemain dans la matinée.
Ensuite, donc, on va faire un petit tour du côté du mois de février.
Oui, alors en février, il y a un spectacle, c'est une reprise d'un spectacle qui s'appelait « De l'amour, de la rage et autres cocktails Molotov ». Toujours à partir d'une écriture de Philippe Forgeau, et c'était un spectacle qui avait été monté par Philippe Flao avec un groupe de jeunes adultes, je dirais. C'était un travail qui a été fait à la base suite à des ateliers d'écriture avec des lycéens. C'est une urgence, c'est un cri ce spectacle. Je vous en dis pas plus, mais c'est en tout cas les jeunes, ils le défendent avec force. Voilà, et ensuite on part sur la fin du mois de février avec le mardi 28 février. Alors il y a l'Antégone 2 des apostrophes ou en sous-titre « Que dit le cochon quand le fermier l'égorge ?»
Ça, voilà. C'est, oui, c'est
ça,
intéressant.
C'est une écriture aussi contemporaine d'un jeune auteur qui s'appelle Antoine Vélins, qui sont sur Montpellier. On les avait déjà accueillis avec leur compagnie, enfin c'était compagnie Prime Sautier Théâtre, et là c'est la compagnie Le Cri des Veaux. C'est une écriture et un travail autour du mythe d'Antigone. Voilà, donc avec tout, toute la problématique de, du destin, de ne, est-ce qu'on est maître de notre destin, est-ce qu'on peut changer le cours de l'histoire, enfin voilà, c'est le temps passe, l'encre coule encore et le mythe d'Antigone se répète et nous plonge dans un contexte tragiquement actuel. C'est souvent un travail très de recherche de théâtre et souvent très, très, très contemporain. Voilà. Et une belle écriture en général, Antoine Vélin, c'est un chouette auteur à découvrir en tout cas.
Vincent Dubus, est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ?
Oui, quelque chose qui est peut-être important, c'est un choix de la compagnie aussi, c'est depuis maintenant deux ans, c'est que toute manifestation à la fabrique est au chapeau, c'est en libre participation. On avait envie que ça soit accessible à tous. Bon, c'est aperçu que de toute façon le public était souvent assez généreux. Mais ça permet à des gens de venir, notamment sur les spectacles jeunes publics, qui peuvent venir en famille à 4, 5, 6. Du coup, la problématique de l'argent, c'en est plus une pour avoir accès à de la culture. Et puis, peut-être passer aussi une petite annonce, c'est s'il y a des plasticiens ou des artistes qui sont intéressés pour venir proposer quelque chose dans ce lieu, avec plaisir de se rencontrer. On ne dit pas oui à toutes les propositions, parce que c'est vrai que la fabrique est occupée à peu près à 90% du temps, soit à travers des répétitions, des résidences. Il y a des artistes qui viennent aussi juste simplement en résidence. Il y a des ateliers, il y a des stages, il y a des voilà, il y a toute une vie qui se passe à la fabrique, mais nous restons ouverts en tout cas à des propositions, notamment de plasticiens. On reçoit pas beaucoup de plasticiens pour venir peut-être dans le hall exposer des tableaux, des photos, enfin voilà.
Vincent Dubus, merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Je sais pas s'il faut laisser ou pas.
Jumping to the Western, un petit morceau de blues pour terminer cette émission. On en profite pour faire un petit coucou à Ben Debout qui est reparti en Hollande pour des raisons familiales. S'il nous écoute, on ne sait jamais, sur notre site www.radiosaintafrique.com, on lui fait un petit coucou et on lui dédie ce morceau spécial dédicace.
I remember the time, it was on a Sunday evening. I didn't have a dime, but you wanted one more drink. I went down to my home to pick up my last pennies, but when I came back home, you were talking to some other man. I'm sorry, girl, but I can guess what you want. Sorry, girl, but I can guess what you want. Well, I know what you need. I know what you need, girl. You told me you love me, but you don't treat me right. You don't have the right. One day she makes me smile, and the next day she makes me cry. Today she said she wants to walk a while, but tomorrow she won't even try. I'm sorry, girl, but I can guess what you want. I'm sorry, girl, but I can guess what you want. But I-
know what you need. I know what you need. I know. Sorry, babe, but I can guess what you want.
I can guess what you want, the Jumping to the Western, un groupe To the West Side. C'était caché par l'étiquette que les techniciens collent sur l'album. Un petit groupe de petits jeunes, c'est des bébés, ils ont quoi? Ils ont la vingtaine, hein. Moi je suis passée dans la trentaine maintenant, alors c'est des bébés. 20 ans, ils ont gagné le prix Jeune Talent 2010 au Festival de Blues de Cognac. Peut-être qu'on les aura, un de ces quatre dans la région, c'est prometteur. Prometteur. Bon, ben voilà, la première émission de l'année 2012 touche à sa fin. Je n'aime définitivement pas le lundi.
Moi non plus.
Merci Chloé, à Chloé à la technique. Merci à Stéphane pour son soutien inconditionnel derrière la vitre. Et puis merci à Elsa Gourmand qui a quasiment fait cette émission toute seule.
Revue Faut presse. Pas exagérer. Ouais.
Pas loin, pas loin. On se retrouve normalement, si tout va bien, demain à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Et on se quitte avec un morceau qui met tout spécialement, je pense, il est fait pour moi, hein, c'est La Canaille qu'il a écrit et le titre c'est J'ai faim.
J'ai faim de sens, de fond. Besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et du style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes. Rester condamné à n'évoluer, courir des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé. Affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis. Vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose. Sans renier mes origines et bien avant que je me décompose. Vite, besoin d'évasion, de source d'inspiration. De toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim.
Hey, you're slobbing, gasping, chasing flavor. Foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is a merely a concept. To find my path as I find my step. See the kids that seem so famished. They want direction cause they needs is vanished. I'm munching on the cruise like a praying mantis. My need for the new shit stay established. Mouth is dry and the word is like pastis. Dark cave, I'm looking for the keys. Not every MC holding knees, but I can break out every time I please. Tomato pasta, chives and cream. More culture than you ever dreamed. I get my style from feeding my craving. And that's the good shit that you now tasting.
Oui, j'ai faim. Une faim crève la dalle. Un appétit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui salive. À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis. J'ai les crocs, paroles de Morico. Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue. Et c'est tant mieux, ça dérange, ça devient explicite. Tout d'un coup, les oreilles car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé. Incroyable, hein. Viens, tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net. Au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme. Conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim.